Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Donc, nous célébrons l'Eucharistie avec bien des difficultés. Je me vois très bien, nous sommes dans la sacristie, une toute petite sacristie. Et moi, bon, j'ai le mouchoir à la main parce que j'éternue sans arrêt, non-stop. Nous décidons donc de quitter pour Puerto Vallarta afin de retrouver un peu de repos et l'air de la mer. Alors, nous partons, on sait que c'est encore un long trajet, parce que nous quittons cette partie au sud de Mexico pour l'aéroport. Alors, c'est au moins encore une heure et demie, on le sait. Et là, nous allons pour acheter un billet pour Puerto Vallarta. Mais le vol, donc on arrive autour de 11 heures. Alors, il y a un premier vol qui est parti, et le second est à 22 heures le soir. Et là, c'est trop long. Alors on réfléchit encore, on se laisse interpeller par cet événement et là nous allons décider de nous rendre à Guadalajara, puisque c'est une ville qui fait partie de notre parcours. Nous avions décidé de nous y rendre, alors nous nous ajustons. Donc un départ, le départ est à 14 heures, ce qui est très bien pour nous, et nous allons arriver dans l'heure parce que c'est pas si loin. Donc nous prenons les airs. Nous allons prendre l'air aussi, et entre-temps, eh bien, nous réservons, et mon collègue est très très habile, nous réservons des chambres d'hôtel à Guadalajara, par Internet. Alors Internet, ça nous sauve, et on y arrive, on trouve deux chambres qui vont nous convenir. Et lorsqu'on arrive à cet hôtel, eh bien, c'est le temps de se reposer parce que nous sommes fatigués. C'est une journée fatigante depuis le matin. Le corps est en alerte. Lorsqu'on est criblé d'allergies, lorsqu'on est pris par ce phénomène de la pollution, le corps est alerté. Le corps crie. Donc, on a besoin de repos. Et nous allons prendre un certain temps de repos. Nous allons découvrir une ville, Guadalajara. Alors, on prend le temps de se reposer, on se dépose, et en début de soirée, c'est encore clair, nous nous rendons vers le centre de la ville. Notre hôtel n'est pas très loin du centre de la ville. Alors, nous y voyons tant de monde. Lorsqu'on quitte l'hôtel, il y a du monde, mais du monde qui attend de prendre les autobus. Il est autour de 17 heures. Je n'en revenais pas. De voir les files. Il a fallu traverser parmi tous ces gens. Et je vous le dis, c'était vraiment des personnes très, très modestes, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme travail, mais ils devaient retourner peut-être en périphérie ou en banlieue. Ils ne restent probablement pas au centre de la ville. Alors, mais du monde. Guadalajara est une ville de 5 millions d'habitants. On vient de quitter Mexico de 22 millions d'habitants. Alors, c'est aussi une très, très grande ville. Donc, des gens qui attendent pour prendre les autobus, des familles, des petits, des bébés. Alors, on découvre, pas tellement loin, une église, l'église des Franciscains, avec un beau parc tranquille. Puis, nous allons entrer dans une église, une autre, où se trouve en chapelle ardente la dépouille de quelqu'un. Alors on entre dans cette église par une porte latérale, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors on entre et tout d'un coup, on voit des personnes qui ont vraiment un visage grave. Les gens sont peinés de la perte de quelqu'un et on découvre que c'est un prêtre. C'est leur prêtre, c'est leur curé. qui est dans le cercueil. Alors c'est impressionnant, c'est touchant de voir comment les gens ont perdu quelqu'un qu'ils aiment. Ça se sent. Il y a certainement des membres de la famille, mais il y a des membres aussi de la communauté. Alors ce prêtre qui a connu tout ce monde, qui faisait partie de leur vie quotidienne, eh bien, il est décédé. Le Seigneur l'a rappelé. Alors la gravité, c'est ce qui me frappe, la gravité de ce moment-là, la peine sur les visages. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur.
Mes yeux sont mes yeux! Tes yeux sont tes yeux!
Une autre tempête allait durement les secouer. La dame de la montagne se leva. Elle tremblait d'effroi. Par-delà les éclairs et le tonnerre, elle lui cria.
« Si tu as peur pour tes yeux, ferme tes paupières. Fais comme moi. Tâtonne et viens me rejoindre. »
Soudain, la force du vent ouvrit tout grand la fenêtre dans la chambre de la dame de la montagne. Ceci provoqua l'ouverture immédiate de la porte de la maison, et toutes les fenêtres s'ouvrirent sur le dehors terrifiant, qui rentrait en fouettant le dedans d'éclairs et de pluie. Les paupières fermées, Petit-Jean se leva, et titubant, il se dirigea péniblement vers la chambre où restait pétrifiée la dame de la montagne. Le vent avait pris d'assaut toute la maison. On eût dit qu'ils étaient tous deux sur le pont d'un bateau battu par la mer en furie. Les deux aveugles finirent par se rejoindre, comme deux épaves, au gré du vent et de la pluie. Paralysés des yeux, en face d'une vieille aveugle qui avait les paupières toujours closes, il se mit à tournoyer avec elle, puis il vociféra.
« Maudit bateau! Maudite mer qui nous engouffre! Non, je ne veux pas mourir! Je ne veux pas qu'elle meure! Nous n'avons plus Dieu !»
Trempée par la pluie qui rentrait à toute allure par la fenêtre ouverte, la dame de la montagne commença à diriger les pas de Petit-Jean vers la fenêtre. Sous cette pluie torrentielle et les éclairs qui frappaient de lumière son visage, il frémissait et criait plus belle.
« Non, non, mes yeux, mes yeux !»
C'est alors qu'il prit le visage de Petit-Jean. Il appuya contre le sien pour le protéger. Ils restèrent longtemps ainsi, le visage de Petit-Jean sur le sien, et le préservait du vent et de la pluie. Lui était figé dans sa peur morbide de perdre à jamais ses yeux. Puis, la dame de la montagne se mit à dire ces paroles mystérieuses.
« Horizon rouge, horizon rouge !»
Lentement, Petit-Jean se risqua à ouvrir ses paupières et à le regarder dans la nuit, fouetté par l'orage. Elle avait l'air d'une folle contre lui. Les cheveux mouillés, du sang coulait de ses yeux morts. Un étrange sourire apparaissait sur son visage alors qu'il se cramponnait à elle comme un naufragé qu'elle berçait. L'orage mit du temps à se calmer. Cette nuit-là, un mystérieux courant d'air les avait tenus en otage, réunis dans un échange de regards dont seule la dame de la montagne avait reconnu le repère. Elle savait qu'elle venait de sortir d'une nuit atroce. Transie, elle s'effondra sur son lit. Et Petit-Jean regagna son coin de peur en tâtonnant comme il était venu. Il toucha ses yeux, ouvrit ses paupières, puis les referma aussitôt. Clarisse la folle avait été foudroyée. Elle était sortie, déambulant encore dans les ruelles avec ses cris d'épouvante. Le nez à la fenêtre, les gens l'avaient regardée une fois de plus comme une étrange sorcière contournant la peur. Mais elle était tombée, foudroyée près de la fontaine, avec ses longs cheveux épais sur tout son corps. Au petit matin, le boulanger l'avait trouvée morte, étendue de tout son long dans une mare d'eau. La nouvelle avait fait le tour du village aussi vite que les éclairs de la nuit. Les gens avaient quitté leur maison pour venir voir la folle, étendue près de la fontaine. Les enfants s'approchaient tout près pour voir ses longs cheveux épais. Averti par le boulanger, le curé arriva à la course, suivi de quelques ouvriers. Tout le monde se tut. Il s'avança lentement. Il ne se rendait plus compte de tous ces regards posés sur lui. Il entrait dans un autre monde. Se mettant à genoux, il prit Clarisse la folle dans ses bras, dans la mare d'eau. Il sanglotait. Et beaucoup de gens ne purent retenir leurs larmes, tandis que certains partirent, incapables d'en supporter davantage. Jamais on n'avait vu pleurer le curé. Jamais. Cette fois-ci, ce n'était plus la mort des autres, mais la sienne. On eût dit une scène de Pietà, étouffant de sanglots le cadavre de son fils descendu de la croix. Il se mit alors à dire à la ronde, comme si on venait de lui trancher le cœur. « Cet enfant, c'était moi. Cet enfant, c'était moi. » La foule se mit à s'éloigner doucement, les laissant dans la mare d'eau près de la fontaine. Clarisse la folle aux longs cheveux épais et le curé fou de l'avoir aimé comme lui-même. Il venait d'apprendre que la foule avait tué Clarisse la folle. Petit Jean pensait lui aussi qu'il avait frôlé la mort. Pourtant, la dame de la montagne gardait cet étrange sourire qui illuminait tout son visage.
« Clarisse est morte, pour le bien de tout le village, » dit-elle.
« Mais comment peux-tu dire une chose pareille ? »
répliqua-t-il. La dame de la montagne était descendue bien au fond de cette nuit, horizon rouge. Elle savait maintenant qu'on y allait pour les autres, pour tant de personnes qui ne veulent s'y rendre, comme tous ces nés à la fenêtre qui avaient regardé la folle coureuse sous l'orage. Petit-Jean reprit ses arguments de révolté.
« Mais pourquoi fallait-il que Clarisse subisse un tel sort ?»«
Elle n'a rien subi, Jean. Elle écoutait ce qu'elle devait faire. »«
Qui peut jouer ainsi avec la vie des autres ? Qui ?»«
C'est comme ça. »«
C'est comme ça. »
La dame de la montagne ne tarda pas à poursuivre.
« Tu étais mes yeux, tu me l'as dit. »
« Je ne suis plus tes yeux, » répliqua-t-il.
« Je sais. J'ai donné les miens cette nuit. »«
Tu les as déjà perdus. Comment pouvais-tu donner tes yeux morts ?»
Et dans un sommet des plus dramatiques, elle lui révéla.
« Je les ai donnés pour toi, Jean, pour que tu les ouvres encore et que tu vois. »
Petit-Jean revit l'effroyable épisode de la nuit. Il était foudroyé par ses paroles. Puis elle ajouta
« C'est comme ça, l'amour. »
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.